Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. C'est à l'édition qu'est consacrée cette émission au fil des pages, mais à un secteur de l'édition un peu particulier, celui de l'édition d'art, l'édition que l'on désigne souvent sur l'édition des beaux livres. Et j'ai le plaisir d'accueillir une éditrice d'art, Madame Monet Layot, qui a bien voulu venir dans le studio de Canal Academy pour nous parler de ses livres qu'elle produit et qu'elle édite. Et ce sont des vraies merveilles. Monet Layot, bonjour.
Bonjour et merci mille fois de m'inviter parce que c'est toujours une grande chance de pouvoir s'exprimer sur les passions qu'on vit.
Monet Layot, les éditions Monet Layot, ça existe depuis quand ?
Ça existe depuis 1985. J'avais monté cette maison pour parler d'art aux enfants et puis j'ai divergé sur le 17e et le 18e français. En fait, ce sont des actes de patrimoine, ces livres, parce que c'est vraiment fait pour défendre le patrimoine de la France.
Très bien. Quelles sont les particularités de l'édition d'art ? Elle est plus difficile que l'édition ordinaire à cause de la mise en page de l'iconographie.
Alors, elle est plus onéreuse. Il y a une grande difficulté, c'est l'iconographie. Parce que il y a aujourd'hui tout un droit à l'image qui est flou. Il y a aussi des gens qui pensent que parce qu'ils possèdent des objets, leurs photos sont des sources de revenus. Et ça, c'est très, très handicapant pour certains livres qui ne peuvent pas sortir à cause de ça. Donc là, on a un réel problème. On peut avoir ce que j'appelle une censure par les procédures.
Ah oui, à ce point.
Oui, à ce point, oui, oui. C'est-à-dire que quand vous détenez les objets, d'abord, on est dans un pays qui crée beaucoup depuis toujours, mais qui brûle, qui détruit, qui vend. Donc, beaucoup de la création française au fil des siècles est partie à l'étranger. Il faut faire comprendre à certains conservateurs ou à certains collectionneurs qui n'ont pas forcément notre culture, qui ne doivent pas nous déposséder des objets qui en sont les témoins, et que c'est très important aussi de pouvoir éditer en France sur ce patrimoine. Parce qu'il y a tout un esprit qui va autour de ces objets.
Donc les éditions d'art Monet Layot, c'est un petit peu un combat pour la préservation du patrimoine par les pages des livres.
On est beaucoup de combattants en France. L'édition d'art en France se porte très bien. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'éditeurs, petits ou grands, mais que ce soit petits ou grands, on travaille pareil. Alors vous avez dit beaux livres, c'est une acception que nous, on n'aime pas beaucoup parce qu'en fait, il y a beaucoup de livres illustrés qui n'ont rien à l'intérieur. C'est une jolie couverture, quelques jolies photos et pas de message. Dans le livre d'art, le texte est aussi important que la photo. L'un et l'autre s'expriment en fugue.
Alors, est-ce que cette édition d'art a des contraintes particulières d'imprimerie, par exemple, ou de
Alors,
diffusion ?
Nous, on a des contraintes de qualité particulières, parce que moi, j'estime que si on a un livre, d'abord, on n'a que 4 couleurs pour se défendre, et pour reproduire des œuvres qui sont souvent majeures, il faut que, quand on a un livre en face du tableau, ce soit cohérent. Ce n'est jamais qu'une reproduction, on n'a pas le contact de l'œuvre avec le livre, mais le livre permet la connaissance. Et d'ailleurs, c'est très important pour certaines collections qui sont inaccessibles parce que aussi elles sont fragiles, comme des dessins par exemple qu'on ne peut pas exposer en permanence, ou par des choses qui sont vraiment trop fragiles pour être exposées souvent. Le livre permet d'entrer dans ces collections-là, de les connaître sans les abîmer. Donc, c'est important que le reflet soit fidèle.
Et est-ce que vous êtes contraint maintenant à faire, par exemple, des éditions à un niveau européen, à plusieurs éditeurs, de façon à ce que la diffusion soit plus large ?
Alors, plus la diffusion est large, moins le livre est cher. Mmh. Plus on est de partenaires, plus on a de chance d'avoir une aura, d'avoir une commercialisation qui est plus facile. Moi, je suis mal placée pour vous en parler, parce que je fais des livres invendables, donc j'ai du mal à les coéditer.
Y a-t-il un circuit de diffusion particulier à l'édition d'art?
Alors la diffusion et la distribution, c'est un cauchemar pour tous les éditeurs, mm-hmm. parce que la diffusion et la distribution, c'est entre 58 et 60% du prix du livre. Donc nous, il nous reste 40% pour le papier, la reliure, les auteurs, les photos, les prises de vue, le stockage, la diffusion. C'est effectivement un vrai risque à chaque fois. Et bon, il y a aussi de très mauvaises habitudes de librairie qui tue certains livres. Bon, les libraires ont l'habitude généralement de prendre les livres en dépôt. Ils vous les rendent quand ils sont abîmés, qu'ils ne les ont pas vendus. Bon, je trouve que pour des marges qui sont aussi importantes, le risque est trop faible. Nous, on prend tous les risques. L'éditeur prend tous les risques.
Effectivement, un très beau livre d'art. Comment en fixe-t-on le prix par rapport
à... C'est un prix de fabrication. Il y a des coûts fixes qui sont très importants pour la photogravure, la photocomposition, les prises de vue, les auteurs, le papier, la reliure. Et ces coûts fixes, une fois pris en compte, c'est le tirage qui va faire que le prix va baisser ou pas. Plus on tire, plus les coûts fixes sont répartis sur un grand nombre d'exemplaires, plus on arrive à être compétitif sur un certain marché. Et pour certains livres, c'est impossible. Mais d'un autre côté, il faut que ces livres-là existent parce qu'ils sont des sources pour les autres. Il y a plusieurs strates dans l'édition. Il y a un livre de vulgarisation qui permet d'accéder à des livres plus difficiles et le livre plus difficile sera plus cher parce que tiré à un nombre d'exemplaires beaucoup plus petit.
Évidemment, oui. Est-ce que vous êtes contraint à trouver des imprimeurs à l'étranger, par exemple ?
Bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, je me dis que... Souvent, on me dit, mais imprimer en Chine, c'est pas être une bonne française. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'être une bonne française, c'est sortir des livres qui sortiraient pas sans ça. Et que, de toute façon, aujourd'hui, il y a une contrainte qu'on doit s'imposer. C'est une qualité maximum. Et pour avoir cette qualité maximum dans des tirages réduits, il faut aller là où vous avez des prix qui vous permettent de sortir les livres.
Alors, vous disiez, Monet Layo, que vous produisez des livres invendables. Mais est-ce que vous tenez compte, par exemple, d'une certaine actualité, des expositions? Est-ce que vous vous organisez? Est-ce que c'est possible de s'organiser pour sortir un livre sur des sujets de grandes expositions en Europe ou en France?
Alors, beaucoup d'éditeurs le font. Il y a des marchés qui sont passés. Puisqu'aujourd'hui, il y a toute une commande publique avec beaucoup d'éditeurs qui ont essaimé après que l'ARMN n'ait plus été leur interlocuteur principal.
L'ARMN, c'est la Réunion des musées nationaux.
Et donc, il y a des appels d'offres qui sont faits. Personnellement, je n'y réponds jamais.
Vous n'y répondez pas?
Non. Je n'ai pas le temps de faire des dossiers. Je vais vers mes passions et j'en ai assez pour remplir ma petite vie. Mais on est plusieurs éditeurs, donc on se partage très bien les choses.
Est-ce que votre passion se limite à 17e, 18e siècle?
Je vais être affreuse, mais ça se limite à la France.
Bon.
Voilà, c'est vraiment l'aura de la France, le patrimoine de la France, la façon dont il est décliné, la façon dont il est perçu, et aussi une envie de faire comprendre à tous ceux qui ont tous ces objets dans le monde entier qu'il y a un esprit, un air, un sirop de la rue qui est quelque chose qui est indescriptible et qu'il faut rendre. Vous voyez, moi, il n'y a rien qui m'attriste plus qu'une photo d'un objet pris dans un palais national ou pris sur un fond de photographe. Non, une chaise s'appuie sur une simèse, le dossier est fait exactement à la bonne dimension pour que ça s'appuie exactement. Quand vous avez un bureau plein, cartonnier, deux siècles après, même s'ils ont été séparés par la vie, si vous les rassemblez, ils s'embrassent d'une façon exacte et précise. Il y a tout un décor intérieur. En France, on a toujours travaillé en symbiose, en osmose, artiste, métier d'art, créateur, commanditaire. Et cette harmonie-là qui est quelque chose qu'on pourra nous envier toujours parce qu'elle est inimitable et qu'il faut qu'on rende.
Monet Layo, lorsqu'on feuillette votre catalogue, le catalogue des éditions Monet Layo, on y trouve quelques ouvrages et même plusieurs ouvrages qui sont soit rédigés, soit préfacés par des membres de l'Institut, ce qui nous fait un point commun, notamment un ouvrage qui s'intitule « Album du Comte du Nord, le nôtre » à Chantilly par Jean-Pierre Bablon de l'Institut, donc membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres, conservateur général du patrimoine et puis actuellement aux commandes des deux grands musées qui dépendent de l'Institut Jacques Marandré et puis aussi l'abbaye de Chalix,
qui est aussi, Jacques Marandré,
mais voilà, dans un autre endroit, les deux musées Jacques Marandré. Jean-Pierre Bablon a donc consacré un ouvrage à ce Conte du Nord. Alors, l'album des Contes du Nord, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le Conte du Nord, c'était celui qui allait devenir le tsar Paul Ier de Russie.
Conte, c'est O-N-T-E.
Voilà,
hein, c'est
O-M-T-E. Le Comte et la Comtesse du Nord, il était très fréquent au XVIIIe de prendre un pseudonyme pour venir voyager, surtout à la cour de France où il n'y avait pas d'étiquette pour les princes non régnants. Donc, ils venaient sous un pseudonyme et pouvaient rencontrer tous les gens qu'ils avaient envie de rencontrer d'une façon informelle, sans avoir de soucis à se faire, parce qu'il y avait une étiquette qui ne les prévoyait pas. Il y a eu le Comte de Falkenstein, il y a eu... Et alors, le Comte du Nord est tombé amoureux des jardins de Le Nôtre, à Chantilly, et on a fait faire un fac-similé. Et ce fac-similé, quand les Soviets ont vendu les collections des tsars de Russie, l'Institut de France a pu l'acquérir.
S'en est porté acquéreur voilà. En 1930.
Voilà. Et donc, nous, on a fait un fac-similé à taille réduite, hein, puisqu'il est au quart de la réelle taille. Sinon, c'était une table basse dans un salon.
Okay.
Et on a eu la chance que Jean-Pierre Bablon veuille bien commenter ses planches. Jean-Pierre Bablon, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ça a été le premier grand patron de Versailles, puisque c'est le premier conservateur qui a eu à la fois la charge du château et des jardins. C'est le grand spécialiste du château en France. Il a fait plusieurs livres sur les châteaux. Il y en avait un chez Berger-Levrault qui était tout château en France. Il en a fait plusieurs autres. Il a fait des monographies aussi. C'est vraiment le grand spécialiste des châteaux. Et avec le charisme et l'intelligence qu'il a, il ne fait pas de différence entre château public, château privé. Il prend le patrimoine comme il est, il l'expose, il l'explique et il l'analyse.
Alors, plusieurs émissions dans la médiathèque de Canal Académie avec Monsieur Jean-Pierre Bablon. Alors, Monet Layot, il y a un autre ouvrage que l'on découvre dans votre catalogue qui s'intitule « Carmontel au jardin des illusions ». Cet ouvrage est préfacé par Gabriel de Breuil de l'Académie française, actuel chancelier de l'Institut de France, avec une introduction de Nicole Garnier, conservateur du musée Condé à Chantilly. Nicole Garnier, que nos auditeurs connaissent aussi. Alors, quelle est cette histoire de Carmontel ?
Alors, Carmontel était le lecteur du duc de Chartres. Il était topographe aux armées et donc il va élever le duc de Chartres. Il va vivre au palais royal dans l'Orbe des Orléans. Il ne sera pas considéré comme un domestique, mais ne sera pas non plus à la table des Orléans. Il déjeunait dans une petite salle à manger à part et il va amuser tout le cercle des Orléans. Il va écrire des proverbes qui sont très amusants, que tout le monde va jouer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs, mais c'est absolument hilarant aujourd'hui. On les a fait rejouer au Parc Monceau et au Jardin d'Hermenonville. Il y a des effluves de rire. C'est vraiment très, très drôle. Il avait aussi, parce qu'on s'ennuyait dans les châteaux le soir, donc à la lueur d'une bougie ou à la lueur d'une cheminée ou même devant une fenêtre, il déroulait des grands transparents qui font quelquefois 48 mètres de long. Et il racontait l'histoire des jardins, l'histoire des villages qu'on traversait, la vie quotidienne. Il a fait 450 aquarelles qui sont conservées à Chantilly, qui sont souvent de profil, c'est l'époque de silhouette. Et il dépeint la société de son temps. En fait, il n'est pas Rubens, il n'est pas Greuze. C'est un bon artiste, c'est sûrement pas un... Mais il croque la société de son temps, c'est vraiment le caricaturiste d'une époque. Et il montre à chaque fois toute la symbolique des gens qu'il dépeint. Par exemple, dans le livre, à un moment, il y a des personnages qui ont tous des costumes et des robes rayées, parce qu'un de leurs amis avait été rayé du Parlement, et donc en protestation, ils avaient tous des tenues rayées. Et puis, cette façon ravissante de vivre l'Ancien Régime. Par exemple, il dit à une dame, « Si vous eussiez vécu du temps de Gabriel, je ne sais pas ce qu'on aurait dit de vous, mais on n'eût point parlé d'elle. »
Voilà, Carmontel par Monet Layot. Je vous propose de marquer une courte pause musicale et de nous retrouver juste après.
Canal Académie rend hommage aux grandes figures historiques de l'Institut de France. Jean-François Revel, de l'Académie française, décédé en 2006. Jacques Bainville, également journaliste et également immortel de la française, mais d'une autre génération. Les frères Reynac, grandes figures de la Troisième République, dont l'un d'entre eux, Salomon, était membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. François Arago, scientifique du XIXe siècle, membre de l'Académie des Sciences dès l'âge de 23 ans. Charles Trenet et Delacroix, tous deux membres de l'Académie des Beaux-Arts. Roger Arnaldez, philosophe de la pensée orientale médiévale, ainsi que beaucoup d'autres figures de l'histoire des académies qui, je vous le rappelle, remontent jusqu'au XVIIe siècle.
Retour dans notre studio, toujours en compagnie de Monet Layot. Nous avons évoqué deux ouvrages de votre catalogue qui en comptent beaucoup d'autres. Mais maintenant, nous allons, si vous le voulez bien, parler du dernier-né de vos ouvrages. C'est un magnifique ouvrage consacré, un ouvrage à la gloire du cardinal Mazarin, consacré à Mazarin. Donc, un ouvrage que vous avez publié conjointement avec la bibliothèque Mazarine, qui est bien sûr notre voisine dans le palais de l'Institut de France, puisqu'elle est installée dans les locaux de l'Institut de France, bien sûr. Alors, l'occasion de cet ouvrage, Monet Layot, c'était la commémoration du 4e centenaire de la naissance, n'est-ce pas, du cardinal Mazarin.
Qui a donné lieu à un colloque, d'ailleurs, qui s'est tenu à la bibliothèque Mazarine, et ce sont les actes du colloque.
Alors, quand vous nous dites que vous avez publié un ouvrage avec les actes du colloque, c'est un peu rébarbatif.
C'est
parce
pour
que
ça
l'ouvrage,
qu'on
il n'est pas rébarbatif.
C'est pour
lui,
ça
il est
qu'on
magnifique.
Écrit colloque absolument nulle part.
Donc, comment fait-on pour passer des actes d'un colloque à un ouvrage d'art qui fait plus de 500 pages, qui est un million de signes, qui est un énorme ouvrage très bien illustré?
Alors d'abord, c'est le 17e français. Le 17e, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. C'est le deuxième volet d'ouvrage sur le 17e, puisqu'on avait coédité l'année dernière avec le Louvre un livre qui s'appelle Rinceaux et figures, qui émanait aussi d'un colloque. Et donc là, ça a été un immense plaisir de travailler avec le directeur de la bibliothèque Mazarine qui s'appelle Christian Pelligri et deux directeurs scientifiques de ce colloque qui sont Isabelle de Cognoux et Patrick Michel. Et je dois dire que ça a été un vrai, vrai plaisir. On a travaillé un an ensemble sur ce livre. Les petites maisons, ça peut se permettre de s'arrêter et puis de faire une pause pour faire des choses jolies. Il a 1 200 000 signes.
1 200 000 signes, voilà.
500 pages.
Il a un appareil, j'allais dire un appareil critique assez important avec des annexes, des notes, mais néanmoins ça reste un livre grand public.
Alors, tout l'appareil est là, tout ce qui peut en faire un livre essentiel est là, on est avec des auteurs qui sont des scientifiques. Par contre, les textes, certains textes ont été un peu unifiés par eux, donc avec les auteurs ont très bien compris qu'il fallait que ce soit joli, que ce soit lisible, et c'est très agréable à lire, c'est important. Nous, on a fait une maquette comme on l'aurait fait dans un livre d'art normal, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on est scientifique qu'on doit être ennuyeux, et nous, on a mis finalement une expérience de la forme au service d'un fond extraordinaire.
Monet Layot, combien de spécialistes ont participé à cet ouvrage dont je précise véritablement le titre « Mazarin, les lettres et les arts »
Alors, il y a 28 auteurs.
28 auteurs.
Il y a deux directeurs scientifiques, donc Isabelle de Cognoux et Patrick Michel. Christian Pelligri qui a fait une introduction et Madame Carrère-Dancos qui nous a fait une préface.
Alors, une préface d'Hélène Carrère-Dancos, mais il y a aussi, je vois, un texte de Jean Delumeau, donc sur Mazarin collectionneur.
Alors, tous les grands spécialistes du 17e sont présents là. Et Mazarin collectionneur, il a tout collectionné, il a tout aimé. C'est complètement éclectique, profond, les plus jolies choses sont là. Et cette bibliothèque Mazarine, qui est un vrai bonheur, quand on entre dans ce lieu déjà, on est imprégné de culture.
C'est vrai.
On a l'impression que ça transpire à travers les reliures.
Et il y a aussi, je vois, Mazarin et les biens de ce monde. Ça, c'est une partie qui a été développée par Madame Claude Dulot-Saint-Denis, donc de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques.
Alors, Mazarin n'a pas l'image qu'il devrait avoir. Il a une image qui est restée frelatée au fil des siècles. Bon, peut-être à cause de Dumas. Peut-être aussi, est-ce dû au fait qu'il cultivait plus ses ennemis que ses amis et donc il ne laissait pas s'exprimer ce qu'il aimait bien. Mais c'est un homme qu'on découvre d'une façon extraordinaire avec tout ce qu'il a pu faire. C'est un grand bâtisseur aussi.
Alors voilà, il y a donc une partie du livre qui est consacrée aux arts, Mazarin et les arts. Et vous avez dit qu'il était évidemment collectionneur. Je crois qu'on le surnommait le prince des collectionneurs, n'est-ce pas?
Ce qu'il y a, c'est que moi, je suis un peu gênée pour en parler parce que je ne suis que l'éditeur et je suis vraiment au service de toutes ces plumes extraordinaires qui ont écrit sur lui, que moi, j'ai lu avec passion, mais bon, et eux s'expriment voilà. mieux auprès de vous.
Ce que je voudrais montrer, c'est que le livre donne un portrait complet de Mazarin. C'est vraiment un livre essentiel. Alors, il y a Mazarin et les arts collectionneurs, mais il y a aussi les lettres, l'iconographie. Il y a Mazarin amateur de livres, il y a Mazarin bâtisseur, en
effet. Et puis, en plus, ça permet d'avoir accès à des reliures, à des livres. Il a collectionné les hébraïcas, il a collectionné les manuscrits chinois. Il a vraiment... il y a un panel absolument étonnant. Cet homme s'est vraiment intéressé à tout. Et bon, ce sont des œuvres qui sont fragiles, qui ne sont pas forcément à disposition. Donc là, on y accède. Quant à Mazarin bâtisseur, on ne le connaît pas non plus comme bâtisseur, mais c'est lui qui a fait l'aile de la reine à Vincennes. Il pensait que le Louvre était un palais qui n'était pas adapté au gouvernement du roi et qu'il fallait un palais qui serait excentré. Donc il a commencé par faire toutes les grandes allées qui vont vers Vincennes, à faire cette aile de la reine, à faire des décors qu'on ne voit pas aujourd'hui puisque c'est un bâtiment qui appartient à l'armée et malheureusement c'est fermé au public. Mais ça, c'est peut-être dommage aussi. Peut-être qu'il faut un autre livre qui permette de visiter ce qu'on ne peut pas visiter autrement que par les pages d'un livre.
Mais dans ce livre que vous avez édité, il y a donc ce chapitre consacré à Mazarin et l'architecture française où il y a des reproductions de Vincennes, justement.
Voilà, il y a le Palais Royal aussi.
Et des reproductions du Palais Royal.
Parce qu'il a remodelé le Palais Royal puisqu'il a acheté tous les hôtels qui étaient contigus et sous un prétexte de sécurité, qui est peut-être un prétexte réel aussi, il a fait cette grande esplanade qui aujourd'hui fait qu'il y a cette vue et cette aération quand on arrive vers ce palais royal qui est extraordinaire. Il a repris la même idée d'ailleurs pour le palais Conti, qui a cette vue sur le Louvre, c'est aussi pas par hasard. Mais...
Voilà, c'est un peu l'image que nous montrons sur le site internet de Canal Academy. Je vous remercie infiniment d'être venu nous parler de votre maison d'édition, les éditions d'art Monelayo, d'être venu nous parler aussi de ce magnifique album Mazarin, les lettres et les arts, publié conjointement par la Bibliothèque Mazarine et les éditions Monelayo.
Je voudrais... Et je vous remercie aussi chaleureusement parce que je sais que vous allez consacrer à Canal Academy plusieurs émissions à Mazarin et à ce livre.
Voilà,
je
j'allais le
très
dire.
Reconnaissante.
J'allais en effet annoncer à nos auditeurs qu'ils pourront trouver plusieurs émissions consacrées à Mazarin sous ces divers aspects que nous n'avons fait qu'évoquer ensemble, mais qui nous donnent bien envie d'aller au-delà. Merci Monelayo.
Merci beaucoup.